une ville en pleine expansion.
Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités.
Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ?
C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain.
On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones.
And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth.
On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité.
Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès.
Les projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense.
Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir.
Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes.
Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution.
On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Patrick Henry, bonjour.
Bonjour Sylvain.
Alors Patrick, tu es architecte urbaniste, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Et tu poursuis aussi une activité de conseil avec ta structure Pratique Urbaine. Alors ce n'est pas la première fois qu'on échange à ce micro, mais cette fois c'est pour un ouvrage qui vient de paraître aux excellentes éditions Apogée, intitulé « Des tracés aux traces pour un urbanisme des sols ». Un petit ouvrage que tu viens de faire paraître. Et dont on va donc parler. Alors, manifestement, on a un problème avec les sols. Ça va être un peu notre sujet de conversation. Est-ce qu'on aurait oublié les sols dans l'exercice du projet urbain ces dernières années ou ces dernières décennies ?
De toute évidence, oui. On en a perdu, en tout cas, l'essentiel. Le sol, pour les urbanistes, pour les appeler comme ça d'une manière générale, c'est leur support, c'est le support sur lequel on vient installer les nouvelles constructions, les nouvelles infrastructures, les nouveaux équipements. Mais au-delà de cette fonction support, si on peut la qualifier comme telle, les sols n'ont pas d'autre existence. Alors c'est des choses qu'on a commencé déjà à pointer. Une personne comme Sabine Barle en 95 a travaillé sur les sols urbains et a parlé de l'invisibilité des sols urbains. C'est-à-dire que les sols restent attachés toujours à l'idée de la campagne, de l'agriculture, etc. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles on les a un peu oubliés, parce que les modernes, grosso modo, les ont un peu considérés comme réactionnaires, les sols. C'est le côté un peu vieille France, pour le dire comme cela. Et puis c'est la trame foncière, c'est la propriété. Donc les propriétés des sols, on n'a pas de droit sur les sols comme on a un droit sur l'eau. On peine à lui faire reconnaître son statut de bien commun. Donc effectivement, on peut dire qu'on a un peu oublié les sols, ou en tout cas on les a pas pris à leur juste valeur et on les considère juste comme une fonction support de l'urbanisme et de l'équipement.
Alors j'ai l'impression, et d'ailleurs la sortie de ton ouvrage en témoigne aussi, qu'on a clairement un regain en ce moment d'intérêt pour cette question des sols. Alors sans doute parce qu'on a un contexte législatif, mais pas seulement. On a quand même, que ce soit sur le monde agricole, sur le monde de la planification urbaine, mais aussi la pratique du projet urbain, une forme de regain d'intérêt pour cette coupe, cette vue non plus en plan, mais en profondeur des sols. Qu'est-ce que tu sens ? Enfin, pourquoi ce regain d'intérêt en ce moment ou ces dernières années ?
Ben, comme tu viens de le dire, c'est cette convergence finalement que les sols expriment et permettent d'une certaine façon. Parce que quand on travaille sur les sols, comme je l'ai fait là, c'est avec ce bouquin qui vient de paraître aux éditions Apogée, les sols, c'est à la fois de la philosophie, c'est à la fois l'histoire des religions, c'est à la fois l'histoire et la géographie, comme on le disait auparavant. C'est les sciences sociales, c'est évidemment l'économie, etc. Donc, on est vraiment sur une matière, un sujet qui vraiment permet d'aborder les choses d'une manière extrêmement large, extrêmement complète. D'ailleurs, les premiers personnes qui se sont intéressées au sol à la fin du 19e siècle, les premiers pédologues, ils insistaient tous sur le côté transdisciplinaire des sols. Et c'est cette transdisciplinarité-là, sans doute, qui aujourd'hui, alors il y a un contexte législatif, tu l'as évoqué, avec la loi climat et résilience et le fameux zéro artificialisation nette. Mais au-delà de cela, il y a effectivement la nécessité sans doute de prendre en compte ce matériau, cet élément qui est un peu oublié et qui permet d'aborder les choses d'une manière vraiment transversale et de faire le lien entre des choses où aujourd'hui on a difficulté à le faire. Hein. On va reparler sans doute d'étalement urbain, mais le lier avec les questions agricoles et du prix du terrain agricole pourrait être par exemple un début d'intérêt en tout cas et de débat.
Mais peut-être allons-y justement sur ce changement de regard, cette transdisciplinarité, c'est aussi un des intérêts de ce bouquin, c'est-à-dire tu prends en fait le sol par plusieurs facettes pour qu'on en perçoive aussi, au-delà de la complexité, mais vraiment cet enjeu systémique hein, dont tu parlais. Justement, dans les termes du débat, parce qu'on est bien aujourd'hui sur des débats, c'est loin d'être stabilisé, les choses sont pas claires, on reviendra après sur la pratique. Toi, est-ce qu'il y a des sujets, des formes d'antagonisme qui te semblent particulièrement structurants ?
Bah, oui, des antagonismes, on parle souvent d'injonctions contradictoires, mais on le voit bien avec l'étalement urbain qui est à la fois dont on souhaite l'arrêt, hein, et l'État s'est prononcé très clairement en disant voilà, on fait le zéro artificialisation nette. Bon, on peut commenter le net et on peut se demander si on arrivera vraiment à compenser, mais c'est presque un autre débat. Et puis en même temps, de développer économiquement, réindustrialiser certains secteurs, rééquiper, etc. Et en même temps, comme on est sur un seul modèle aujourd'hui, hein, qui est le modèle finalement d'une croissance assez stricte et assez monolithique, on a un seul modèle, c'est-à-dire qu'on prend des terres agricoles qui coûtent pas très cher en France, hein, on le sait, c'est des terres sans doute les moins chères d'Europe, et on les transforme en terres constructibles, ce qui permet à certains agriculteurs ou aux grandes emprises agricoles de gagner un peu d'argent quelque part. Donc c'est aussi des injonctions dans lesquelles sont prises les élus locaux. Et puis on urbanise, quoi. Voilà. Donc ça c'est notre modèle et on a du mal à en sortir. Et moi l'idée que j'ai, que je défends dans le bouquin, c'est effectivement de prendre les sols dans toutes ces acceptions, à la fois géologique, à la fois philosophique, à la fois historique, à la fois etc. Et d'en faire le sujet principal de l'aménagement et de partir finalement de ces sols, de leur état, de leur connaissance, on y reviendra sans doute, pour porter des projets qui sont plus simplement, qui viennent pas se plaquer sur les sols, mais qui composent avec les sols, qui considèrent les sols comme le point de départ des aménagements.
Ben allons-y, justement, enfin ça j'ai l'impression que tu commences à nous esquisser ce qu'est ou ce que pourrait être en tout cas cet urbanisme des sols. Tu parlais de connaissance ?
Ma connaissance, oui, parce que, comme tu le sais, déjà commencer par les fonciers. Beaucoup de communes et beaucoup d'agglomérations connaissent mal leurs fonciers, connaissent mal les disponibilités foncières. Donc ça, c'est une première connaissance que l'on peut avoir des sols. Ensuite, il y a l'état des sols eux-mêmes, leur niveau de pollution, leur niveau d'occupation, leur niveau de voilà, leur capacité à redevenir des sols désartificialisés ou désimperméabilisés. Donc tout ça, il faudrait déjà établir une sorte d'état des lieux. Alors, quand on dit ça, on se dit, oulala, quelle grosse politique est en train de se mettre en place, est-ce qu'on va avoir les moyens ? Moi, je pense que on peut agir à des échelles qui sont des échelles absolument prenables, des intercommunalités, des départements ou des régions même, mais on n'est pas... On peut commencer à voilà bâtir une espèce de connaissance des sols à tout niveau, aussi bien comme je l'ai dit foncier que géologique, etc., pollution, risque et compagnie, pour arriver ensuite à se dire ben voilà, une fois qu'on a posé tout ça, quels endroits finalement on est en capacité véritablement d'aménager, de transformer. Alors ça croise évidemment aussi la question d'intervenir sur l'existant, hein, évidemment, on intervient sur des sols existants comme on intervient sur des sols, des bâtiments existants ou sur la ville déjà constituée. Et donc à partir de cette connaissance qu'il faut réaliser aujourd'hui, qu'il faut constituer et partager aujourd'hui, on pose les bases de ce que j'appelle effectivement un urbanisme des sols.
Alors ça c'est un peu la première... La première étape de connaissance et par la suite, alors on est en train de parler de planification, mais aussi d'un rapport au projet urbain. Enfin, il y a différentes échelles hein, qui se mêlent là-dessus. Comment agir sur la base de cette connaissance-là ?
Agir sur la connaissance, tu l'as croisé en fait, c'est déjà agir sur les plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement sur... on prend une assiette de terrain comme on fait aujourd'hui et on urbanise, on est plutôt à se dire sur quelle assiette de terrain on va urbaniser. Déjà, on n'est plus sur le côté c'est là qu'on va faire et ensuite on réfléchit à ce qu'on va faire, c'est déjà de se dire à quels endroits on est en capacité d'intervenir. Par exemple, considérer que sur un terrain qui est déjà construit, déjà pré-urbanisé, etc., on va avoir tendance à intervenir et on va considérer l'état des sols comme un préalable à l'intervention. Par exemple encore, ne pas construire à des endroits où on a ce qu'on appelle de la bonne terre, pour le dire simplement, ou de la terre qui pourrait être utilisée pour réaliser des espaces extérieurs, mais plutôt construire sur les endroits qui sont soit déjà artificialisés, soit pollués, dont l'occupation ultérieure n'est pas incompatible avec la pollution, etc., etc. Donc c'est une prise en compte du contexte un peu plus large qui peut nous faire varier dans un périmètre. C'est-à-dire que l'opération, elle peut, entre guillemets, se balader dans mon esprit en différents endroits selon les opportunités, selon, pour prendre une expression d'un historien suisse, l'aptitude du territoire, sa capacité à accueillir les opérations et plus à les imposer finalement au terrain, au sol, comme c'est le cas aujourd'hui.
Alors c'est un changement de méthode, c'est-à-dire partir du sol et pas du foncier, pas que de la place, et finalement on considérait qu'il n'y a pas de vide et qu'il y a toujours un existant qui est au moins le sol et son histoire. Changement de méthode, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de compétences, voire même de culture des faiseurs et des faiseuses de ville? En quoi ça questionne finalement la pratique à la fois urbanistique et architecturale?
Ça questionne la pratique urbanistique architecturale, mais pas uniquement. Ça questionne aussi la question de la gouvernance, la question de la maîtrise d'ouvrage urbaine, pour l'appeler comme ça. C'est-à-dire que on va revoir sans doute aussi, ça nécessite aussi de revoir la question des périmètres, par exemple. Ça nécessite sans doute d'avoir une vision plus large, au début en tout cas, des périmètres pour justement que les choses ne se fichent pas trop rapidement. Moi, je constate au travers de l'activité que je continue à mener avec Pratique Urbaine, qu'on arrive toujours un peu trop tard. On a toujours un peu le sentiment qu'on arrive trop tard. Et ce sentiment-là, je pense qu'il est aujourd'hui, avec la question des sols, il est urgent de l'inverser, de se dire que on n'est pas obligé de fixer tout de suite le lieu, et peut-être que la recherche des lieux sur lesquels on va intervenir fait partie des conditions du projet que j'évoquais tout à l'heure.
Alors, pourquoi trop tard? Parce que quelque part, on a déjà déterminé où?
Parce qu'on a déjà déterminé où, parce qu'on a déjà déterminé comment et parce qu'on a déjà déterminé combien. Et à partir de toute cette équation, c'est fini, quoi. Les sols là-dedans, ils sont la variable d'ajustement, et justement le zéro d'artificialisation net, on va artificialiser et on se dit ailleurs, plus tard, on compensera. Et c'est cette logique-là, finalement, de laquelle il faut sans doute sortir pour être plus cohérent, d'une part, avec les objectifs qu'on s'est donnés sur cette loi et climat et résilience, mais aussi, plus largement, à avoir une vraie action sur les sols et à partir des sols. Et ça veut dire que la question du combien, du pourquoi et du comment, on se la pose en regard des qualités des sols et en regard des capacités qu'ils ont à accueillir ces aménagements. Alors c'est sans doute un gros bouleversement, sans doute il y a des choses déjà qui existent, les périmètres des agglomérations, des communautés de communes, etc., permettent d'avoir une vision sans doute un peu plus large des territoires que la stricte échelle, par exemple, communale. Donc déjà, c'est un bon outil pour commencer à appréhender les choses sur des périmètres ou des territoires plus amples que ceux sur lesquels on est habitué à intervenir aujourd'hui.
Un changement de pratique, un changement de regard et pas que des professionnels de la profession, hein, on l'entend bien, ça questionne les maîtrises d'ouvrage, les collectivités locales, les élus locaux, etc. Tu es aussi enseignant, comment on passe le message? Est-ce qu'aujourd'hui on en parle assez? Évidemment, tu vas me dire non, mais comment on passe ce message-là?
Oui, effectivement, on n'en parle pas assez. Moi, je donne un cours sur les sols à l'école d'architecture de Paris-Belleville, et je me suis rendu compte que c'était sans doute un des seuls cours qui existe sur ce sujet-là dans une école d'architecture. Alors, ça évolue parce que je pense que les étudiants, principalement, font évoluer les choses aussi, les préoccupations environnementales, la question de moins construire, de plus utiliser des constructions, des matériaux qui dégagent beaucoup de carbone comme le béton, etc., interroge énormément les étudiants. Donc, il est aussi de la responsabilité des enseignants, donc la mienne en l'occurrence, de fournir aussi un appareil critique, un appareil théorique ou en tout cas un appareil aussi pratique pour se dire, ben, il y a des alternatives. Il ne s'agit pas de passer de on construit des milliers de mètres carrés, on ne construit plus rien du tout. Il ne s'agit pas de dire que tout va être arrêté dès demain matin, mais au contraire de dire comment on peut, dans les pratiques, à tout niveau, transformer les choses. Et ça passe par énormément de pédagogie, donc à commencer par les écoles, évidemment. Mais cette pédagogie, on pourrait l'imaginer, la déplacer aussi. Tu parlais des nombreux acteurs concernés par les sols. Il est évident que les habitants eux-mêmes devraient être concernés plus directement. C'est ce que je dis aussi dans le livre, en considérant qu'aujourd'hui, on a d'une certaine façon dépolitisé ce sujet-là. On l'a retiré de la discussion pour n'en garder qu'une opposition, encore une fois, entre la ville dense et ses habitants et le pavillonnaire et l'étalement urbain et ses habitants. Pour moi, c'est le même sujet, c'est la même question, c'est l'occupation du territoire, c'est la façon dont on le mobilise, dont on l'occupe, donc. Et donc, ça concerne tout le monde. Et ça commence par ça. Et ça commence dans les écoles, évidemment, mais ça commence aussi à trouver des endroits, des lieux pour parler de ça et d'expliquer aussi cette logique des sols qu'aujourd'hui, on a, encore une fois, un peu oubliée.
On commence par ça, donc c'est un préalable au passage à l'action. Évidemment, le bouquin est un appel au passage à l'action. Peut-être que tu pourrais nous expliquer pour finir le titre. On a bien compris l'urbanisme des sols quelque part, mais des tracés aux traces.
Ben, tu le sais, le projet urbain a longtemps été l'édification de tracés directeurs. Alors c'est une vieille tradition, hein, de la fabrication du plan, où on trace des grandes lignes, on trace des grandes directions, etc. Et puis ensuite, on vient aménager. Et j'ai l'impression que les sols nous permettent de passer de cette technique du tracé qui reste importante, du dessin pour le dire autrement, qui s'impose, au dessin qu'il propose et aux traces et à l'attention qu'on peut avoir justement aux traces que portent les sols. Alors ces traces, c'est des traces à la fois visibles, hein, on parlait des constructions existantes sur lesquelles on peut continuer à se développer ou qu'on peut continuer à transformer et à réparer, mais c'est aussi les traces cachées des anciennes implantations, la nature des sols, etc. Donc tous ces signaux faibles finalement que nous renvoie le territoire, que nous proposent les sols, qui sont à notre disposition et qui nous permettent d'aménager autrement. Donc ce petit jeu de mots finalement entre des tracés directeurs, imposés et très autoritaires d'une certaine façon pourrait faire place à quelque chose de plus discuté, de plus partagé à partir et autour des sols.
Partir des sols, eh bien, écoute, on lira tout ça dans Des tracés aux traces pour un urbanisme des sols aux éditions Apogée. Patrick Henry, merci pour cet échange et puis sans doute à bientôt.
À très bientôt, merci.